Je suis linguiste et je travaille beaucoup sur, j'ai beaucoup travaillé sur la toponymie des îles anglo-normandes, sur les noms anciens et modernes. Alors, qui dit moderne, en fait, ce sont des noms qui remontent à 933, si on pouvait les dater. Sophie a rappelé que les îles anglo-normandes ont rentré dans le patrimoine des ducs de Normandie, mais ils ont été nommés avant. Alors, c'est très intéressant, c'est assez rare d'avoir le avant et le après. Et puis, d'une manière un peu générale, sur les îles, alors les voici quand même si vous savez où c'est toujours bien d'avoir une carte, les îles, les petites îles, Sophie a bien rappelé, à la fois de l'ancienneté, de la modernité, Eva Guillorel nous parlera après du patrimoine oral à travers les chansons. Les îles souvent constituent un laboratoire d'études privilégié qui permet d'appréhender le monde sur une plus grande échelle, puisque là on a une petite échelle et du coup on peut faire des études très pointues. Alors la zone d'études, c'est les îles anglo-normandes, mais j'ai quand même ajouté les îles de la Manche et j'inclurai quand même Chausey. On ne va pas oublier, puisqu'en fait, c'était tout un ensemble du temps des ducs de Normandie. Les îles, le nom île anglo-normande n'existait pas en soi. C'était Aurigny, Hermes, Serres, Guernesey, Jersey, mais il faut quand même ajouter Chausey, qui ne sont pas actuellement dans le statut juridique dite anglo-normande, puisqu'ils sont françaises. Alors, je vous propose, moi, plutôt d'aborder les petites îles, ces petites îles, à travers l'évolution de leur nom. Au regard de l'histoire et de l'archéologie, qu'est-ce que peut apporter l'étude de la toponymie sur ces îles? Alors, je vous ai parlé du nom ancien et moderne. Alors, le nom ancien, en fait, c'est très ancien. Il faut remonter quand même au 2e, 4e siècle après Jésus-Christ. Nous sommes dans la période dite gallo-romaine. Et les îles anglo-normandes ne s'appelaient pas comme ça, ou tout simplement les îles de la Manche. Alors les îles de la Manche, on va partir de l'île de Wight pour arriver à l'île d'Ouessant. Et nous avons une chance inouïe, c'est que ces îles, transmises oralement, de marin à marin, parce qu'en fait, à l'origine, il faut penser que même si ça a été écrit, cette liste apparaît dans ce qu'on appelle l'itinéraire d'Antonin, une espèce d'itinéraire à l'époque gallo-romaine, une espèce d'itinéraire de voyage qui marque les étapes. Sous l'Empire romain. Mais en fait, ces noms ont été transmis oralement de marin à marin, parce qu'il faut naviguer, et ils ont été mis par écrit par la suite. Alors, la grande difficulté, alors, je vous les cite, on a l'île de Vecta, Riduna, Sarmia, Casea Rea, Barsa, Lycia, Andium, Sigdilis, Uxantis. Voilà, si ça peut vous rappeler vos cours de latin, Rosa, Rosae, Rosum, etc. Je vous remonte, du coup, vous revenez à l'école. Alors, la difficulté, c'est l'identification des îles. Comment est-ce qu'on peut identifier ces îles et quelle langue? C'était quoi comme langue? Alors, on arrive quand même. Alors, je vais vous épargner quand même les détails de linguistique, la phonétique, la morphologie, c'est tout à fait imbuvable. Donc, je vais simplifier exprès pour vous, sinon vous n'allez pas pouvoir comprendre. Au moins, on peut quand même identifier deux îles, la première et la dernière. Vecta, c'est White. Et phonétiquement, morphologiquement, de toute façon, l'île de Wight, le nom de Wight, descend directement de Vecta. Donc c'est toujours intéressant, puisqu'en fait, on a pu identifier celle-ci. Ensuite, la dernière de la Manche, puisqu'après, on va changer de mer, on va tomber dans l'océan Atlantique, c'est Uxantis, c'est Ouessant. Et en fait, Ouessant, phonétiquement, pareil, c'est descend directement de ce terme Uxantis. Alors que ce soit Vecta ou Uxantis, ce sont des termes d'origine gauloise. Ce sont des noms qui ont été donnés par, si je puis permettre, nos ancêtres, les fameux ancêtres, les Gaulois. Alors, la difficulté après est de pouvoir identifier les autres noms. Je reviens un petit peu là. Vous voyez qu'on a par exemple un nom comme Lycia. Andium, il faut toujours séparer les racines, on va dire des désinences. En phonétique, on va retenir and, andé. Alors, il se trouve qu'en fait, on a plusieurs noms qu'on retrouve dans des actes plus tardifs, dans des vies de saints. Par exemple, Lycia, on va la retrouver sous la forme Lessia. On retrouve ça en 750, en 850, 860 pour la première vie de saint Samson. Et là, nous sommes plutôt à Guernesey. Andia, Andium se déforme en Angia. Je vais vous épargner toujours encore ces évolutions phonétiques. Et on retrouve ça dans ce qu'on appelle des miracles, des vies de saints. Première vie de Saint-Marcouf, donc jusqu'au 9e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas au moins pour deux noms, ces noms étaient encore utilisés jusqu'à la fin du 9e siècle à peu près. Ça veut dire qu'en fait, on n'avait pas encore les nouveaux noms. Alors, on a réussi à identifier par la phonétique au moins deux noms, c'est-à-dire Lycia Elesia, vous allez voir, c'est Guernesey, et Andia, Andium, c'est Jersey. Alors, je simplifie énormément, hein. Je vous ai dit, c'est normalement, pour vous expliquer tout ça, je passerai 2 heures. Donc, je simplifie. Hein. Riduna, une des premières îles qu'on voit juste après l'île de Wight. Pour un marin, après l'île de Wight, vous avez l'île d'Origny. Ça paraît logique. Vous n'allez pas faire un détour vers Tatiyou et repartir ensuite. Riduna, en gaulois, c'est Ritu, la course, avec un suffixe ona qui évoque souvent la divinité. Et donc, c'est l'île de la course. Ritona, qui, en phonétique, à l'époque gallo-romaine, va se transformer en Riduna. Et là, c'est l'île d'Origny. Alors, le sens, j'allais dire, est lié à la nature de l'île. Vous avez le rat blanchard, pour ceux qui connaissent l'île d'Origny, un rat, enfin un rat, c'est pas l'animal, hein, c'est un courant très dangereux, très fort courant, qui sépare assez bien la Hague de l'île d'Origny. Donc, l'île d'Origny est le courant, et l'île du courant. Ensuite, en navigation, on va jamais d'un point à un autre. Vous ne prenez pas votre règle et vous ne dites pas « Ah bah tiens, après on va tomber sur Guernesey, ça ne marche pas comme ça. Hein, » Il y a des courants, il faut tenir compte des courants, des vents. Hein, et en fait, c'est l'île de Herm que vous rencontrez d'abord en premier, et c'est Sarmia. Alors, il y a un roman hein, qui s'appelle Sarmia et qui dit que c'est Guernesey. Ce n'est pas Guernesey. Hein. Guernesey, je vous l'ai dit, c'est Lycia. En plus, on a la preuve dans les Vies Saints que ce terme continue à être utilisé pour désigner l'île de Guernesey, soit la forme Lycia, Lessia, etc. Alors, Caesarea, c'est l'île de Cerque. Et là, ce n'est pas un nom d'origine gauloise, on est dans un nom d'origine latine qui veut dire l'endroit qui est coupé. Quand vous connaissez l'île de Cerque, elle est en deux îles, en fait, avec un isthme qu'on appelle la coupée. Hein. Alors, pourquoi un terme latin? Bah parce que la langue gauloise est en train de se transformer, elle est en train de se perdre, quasiment. Hein. Les Gaulois se romanisent. Et c'est comme ça que nous allons parler une langue latine actuelle, hein, à 80% d'origine latine. Barça, c'est l'île de Gétou. On peut facilement l'identifier de manière topographique. Hein, ça vient du gaulois Barro. Vous arrivez à Barissa, le très haut sommet. Quand vous voyez l'île de Gétou, vous aurez tout compris. Effectivement, c'est, on dirait, un petit îlot, un petit monticule, hein, juste avant d'arriver à Guernesey. C'est un itinéraire tout à fait logique en navigation. Et ce sont des amers. Hein. Il est évident que Lysia, Herm, ce sont quand même des petites îles. C'était des amers à cette époque-là pour se repérer dans la navigation. Vous arrivez à Lysia. Alors Lysia, c'est l'île aux lèches. Les lèches, c'était une plante typique des marais. Il faut savoir qu'à l'époque des Gaulois, et même après, toute la partie nord de Guernesey, ils avaient quasiment les pieds dans l'eau. Alors non seulement ils étaient entourés par la mer, mais en plus ils avaient les pieds dans l'eau. Et il y a une plante typique de Guernesey, de ce nord de l'île, hein, qui était complètement marécageux, c'est la lèche. C'est cette plante-là. Il y a eu des recherches en botanique, hein, en archéologie, en botanique en tout cas, pour repérer cette île. Donc c'est très conforme à l'étymologie du nom de l'île. Et Andium repose sur un suffixe gaulois, Andé, qui veut dire la très grande île. Alors j'arrive à mon itinéraire, c'est quand même plus facile. Hein. Vous partez de l'île de Wight, de Vecta, vous passez par Riduna, vous arrivez à Sarmia. Il y a un courant très fort aux abords de Guernesey qui n'est pas facile. En fait, vous n'abordez pas Guernesey par le haut, comme on pourrait croire. Vous contournez l'île de Sarmia, l'île d'Herm. Vous voyez l'île de Cerque sur un côté. Vous longez Gétou et vous arrivez direct sur Saint-Peter-Port. Donc, c'est un itinéraire de navigateur très logique. Vous arrivez sur Saint-Peter-Port. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce port, l'épave d'un navire utilisé à l'époque de l'itinéraire d'Antonin, c'est-à-dire tout à fait à l'époque où a été composé cet itinéraire et à l'époque où on trouve le nom ancien des îles. Et puis après, vous allez vers Jersey, ensuite vous allez vers les 7 îles. Si j'avais dû continuer mon itinéraire, Sigdilis, en gaulois, ça veut bien dire les 7 îles. Hein. Et là aussi, on a trouvé les vestiges d'une épave d'un cargo de l'époque gallo-romaine. Voilà. Alors ce genre d'épave, il a un nom assez amusant. Les Guernesiens lui ont donné le nom d'Astérix. Hein, c'est le nom d'un gros cargo. C'est l'un des plus gros cargos de ce qu'on appelle de tradition romano-celtique. Alors, romano-celtique, c'est compliqué. C'est un cargo plutôt de type celtique. C'est une manière de construire typique des Gaulois. Mais c'est à l'époque gallo-romaine, tout simplement. Et on en a trouvé plusieurs. Ce genre-là, donc, à Guernesey. Et puis, on en a trouvé du côté de Londres et puis dans d'autres endroits de Grande-Bretagne. Voilà. Alors, il y a une rupture complète qui va s'opérer hein, avec l'arrivée des Vikings. Sophie a noté le nom de 933. Mais bien avant, toute façon, l'île de Serques, par exemple, est attaquée par les Vikings hein, dès le 9e siècle. Il y a une riche abbaye, hein, l'abbaye de Saint-Magloire à Serques. Elle est attaquée. Dans le golfe normanno-breton, parce qu'il faut voir plus large, il y a des attaques régulières de Vikings. Et les Vikings vont être à l'origine du changement de nom des îles anglo-normandes. Hein. Les noms d'origine gauloise ont probablement même été utilisés jusqu'à la fin du 9e, 8e, 9e siècle. En tout cas, on en est persuadé pour au moins Guernesey qui est Lycia, et Jersey qui est Andia, et probablement les autres noms. Et la rupture complète, on le voit dans... alors, voilà, je vous ai parlé des attaques, hein, je reviens là-dessus. La plus ancienne attestée, c'est 836, dans le livre noir de Coutances. Dans la vie ancienne de Saint-Malo, on n'est quand même pas loin, hein, on est dans tout le secteur, hein, au 9e siècle. Et puis, il y a une chanson de geste, la chanson d'Équin, qui est beaucoup plus tardive, mais qui c'est un écho hein, des ravages causés par les Vikings dans la région de Saint-Malo. Hein, il y a deux attaques, en réalité, l'Imérac de Saint-Magloire, donc sur l'île de Serques, et puis Vasse, qui est un gersier. Hein, qui écrit au XIIe siècle, est le seul auteur à clairement écrire les ravages qui ont été causés par les Vikings dans le golfe normand-breton, et il cite explicitement Aurigny, Guernesey, Serques, Hermes et Jersey. Alors, ces noms, ils n'apparaissent pas sous cette forme actuelle, hein, ça serait trop beau, pour les linguistes, ça serait trop beau. Un chausé apparaît sous la forme Kalsoy, où on a du mal à savoir comment c'était prononcé, mais ça doit être une prononciation comme ça. Guernesey, c'est Grenoroy. Il y a un R à l'origine et pas un Z. Hein. Et puis j'ai tout, vous voyez un peu la déformation peut être extrême. Ketoulm, ou avec un espèce. Il y a une inversion hein. À l'origine, vous allez voir, c'est Ketoulm. Et puis Serques, en fait, c'est les mêmes, ça n'a pas bougé. Donc une rupture onomastique complète qui est quand même bien due à l'arrivée de nouveaux individus. Alors voici les origines, hein, les étymons. Là aussi, je vous épargne toute l'évolution phonétique qui sont toujours très complexes. Hein. Le nom des îles est formé sur l'ancien scandinave EI, EU, très difficile à prononcer de nos jours, mais enfin cette prononciation-là, ça veut dire île. Et ça explique l'origine des noms d'Aurigny, Guernesey, Jersey et Chausey y compris. Et puis vous avez des noms en holm. Et en holm, ça va donner les finales ou, comme Tatiou, pour ceux qui connaissent bien les îlots de la Manche. Hein, on a une forme ulm, holm. Le M, il tombe, de toute façon, on ne prononce pas la finale, on arrive à ol, le L se vocalise, on arrive à ou. Je simplifie, mais c'est ça l'évolution phonétique. Et là, vous avez beaucoup de noms en ou. Coquelihou, burou, jetou, brécou, c'est assez connu aussi. Liou, un petit îlot du côté de Guernesey, les écréou, hein, les écréou sont très... Et le capliou, n'oublions pas, à Granville. Alors, un petit peu d'étymologie pour vous expliquer d'où vient le nom des îles actuelles. Hein, Aurigny repose sur trois éléments scandinaves, Alda, Rena et U, ça veut dire l'île du courant à vagues. Je cite René Lepelet, hein, qui a été le premier à présenter cette étymologie. Alors, vous voyez, il y a un écho avec le nom gaulois. Le nom gaulois, c'était Riduna, l'île de la course, qui évoquait de manière, on va dire, symbolique le courant durable en char. Et là, finalement, il le nomme de la même façon. Ça veut dire que quand même, entre les Gaulois et les Vikings, c'est un courant qui a marqué les navigateurs hein, et qui est considéré comme dangereux. Hein. Donc, Aldu Renu Ei, au bout d'un moment, ça va faire Aldernay, d'ailleurs en anglais, et dans le patois normand, on arrive à Aurigny. La forme Aurigny est en réalité une forme patoisante. Guernesey, en fait, c'est compliqué, il y a une métathèse. La forme ancienne, c'est Grenoroy. Hein, vous voyez, ce n'est pas du tout la même. Hein. Et là, c'est l'île au coin vert. Si vous regardez sur une carte vue d'avion ou si vous regardez une photo satellite, vous verrez que Guernesey, d'abord, a une forme particulière, un peu un triangle. Effectivement, il y a une base beaucoup plus haute que la partie qui était marécageuse, qui a été maintenant asséchée au nord de l'île. Et la partie en bas et ressemble un peu à La Hague, d'ailleurs. Et c'est ce coin vert. Ça veut dire que l'île au coin vert, ça veut dire que là, on a une île qui a été nommée du point de vue par la mer, par des navigateurs. Hein, donc c'est un amer, on est toujours dans les amers. Et puis l'île de Jersey, c'est peut-être le nom d'un chef, ou ça peut être les herbages aussi. Je n'ai pas évoqué cette deuxième solution. Et Chausey, hein, on est soit sur un nom de personne, ou soit sur un nom, comment dire... par ressemblance. Hein. Calf, en ancien scandinave, c'est la petite île à côté d'un grand. C'est le veau par rapport à la vache. Voilà, c'est comme ça, ça veut dire le veau. Hein, donc en fait, quand on chausée est composé de plein de petites îles par rapport à une plus grande. Alors voici par exemple quelques noms pour les noms en homme, les petits. Brécou, hein, qui est du côté de Serques, c'est l'îlot colline, ça se voit quand même. Liou, c'est Lys, c'est le passage. Quand vous allez à Guernesey et que vous allez visiter le petit îlot de Liou, vous passez à pied. Hein, nous l'avons fait avec Sophie, nous avons été visiter les vestiges d'un prieuré du XIIe siècle, hein, prieuré du Mont-Saint-Michel, qui dépendait du Mont-Saint-Michel. Donc Lys, c'est le passage. J'ai tout, quand je dis. Alors attention, il faut prendre la forme ancienne, ce n'est pas je, hein, c'est quecre. Et il y a eu progressivement un affaiblissement de la consonne initiale. Hein, la forme ancienne, c'est Kekholm, c'est l'îlot penché en arrière. Bon, quand vous regardez j'ai tout, ça correspond assez. Par contre, ça correspond aussi, hein, au terme gaulois qui était Barça, Barissa, le très haut sommet. Hein. Et puis les Écreux, ça parle de lui-même comme nom. Sker, c'est le rocher. Et Skerholm, c'est l'îlot de rocher. Hein, donc, vous voyez, on est vraiment dans une bonne description. Et puis, voilà, quelque chose de très intéressant dans les îles anglo-normandes, qu'on a aussi dans le Cotentin, c'est que les Vikings... Alors, les Vikings, est-ce qu'ils s'installent? Est-ce qu'ils... Voilà, on ne trouve pas de vestiges. Mais, en fait, ils se sont, on va dire, installés à des points stratégiques dans les îles anglo-normandes pour contrôler la navigation. On ne peut pas dire qu'ils vont fonder les États, ils s'installent surtout pour contrôler la navigation, parce que c'est stratégique, ça leur permettait de lancer des raids vers Saint-Malo, et puis surtout vers la Bretagne. Donc c'était tout à fait, on est sur des points de vue de navigation. Et ils ont quand même transmis un vocabulaire particulier, et là on est quand même dans une transmission orale, qui après s'écrit sur les cartes marines, hein, mais c'est... Par exemple, les navigateurs, s'ils veulent se repérer autour de Guernesey, il y a de quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de rochers, ben les noms sont restés en normand. Hein, vous avez Lecce, d'ailleurs, je vous aide de le prononcer comme ça. Nous, dans la Hague ou dans le Val-de-Serre, on va dire Lecce, mais c'est Lecce. Pour ceux qui savent, on dit un curé ou un turé. Hein, voilà, on est en Normandie. Donc Lecce, ça vient de Sker, hein, rocher, récif, et ça a plusieurs correspondants dans les territoires où les Vikings se sont installés. L'étac, un rocher élevé, ça vient de Stacre. La boue, alors c'est pas du tout la boue dans laquelle le sanglier va se vautrer, c'est Bossy, c'est le rocher à fleur d'eau. Hein, donc on a la boue aussi dans la Hague. Mais c'est surtout dans les îles où ce vocabulaire est assez bien représenté. La grune, hein, grune, le au fond, c'est très courant. Vous prenez une carte marine de Guernesey et Jersey, vous allez trouver tous ces noms. Ou même des cartes encore plus précises, ou de pêcheurs, comme avait transmis, je pense, Darry Logier, hein, des archives de Guernesey, hein, des cartes particulières de pêcheurs. C'est toujours les noms normands qui sont employés. Par contre, je ne sais pas comment les Anglais les prononcent maintenant. Ça doit être assez déformé. Et puis le nez, alors ce n'est pas notre nez à nous. Hein. Dans la Hague, on sait qu'il faisait une différence de prononciation. Le nez qu'on a là sur le coin de la figure, enfin au milieu de la figure, pas sur le coin, ça serait dommage, c'est le « no », il prononçait « no », mais en fait, dans les îles, et en tout cas dans la Hague, ils disent bien un nez, et ça vient de « ness », le « cap ». Hein, il y a d'autres, je ne vais pas m'étendre. Il y a aussi quelques toponymes très particuliers à Guernesey, hein, qui ont toujours été transmis de manière orale et qui ont été figés après dans le paysage toponymique. Après, c'est les cartes, hein, qui figent les noms. La varde, c'est balise, tas de pierres pour avertir un voyageur. Et comme par hasard, les vardes, ce sont souvent des dolmens. Hein, c'était des dolmens, des fois ils ont disparu, et c'était des amers. Voilà. Donc ça, c'est un nom assez exceptionnel. On ne l'a pas dans le Cotentin. On l'a qu'à Guernesey. Voilà ça, par exemple, la vue à partir d'une Hargue. Magnifique paysage, n'est-ce pas, hein, qu'on peut voir. Donc on est bien sur des amers. Voilà un petit peu l'héritage, hein, on va dire, scandinave de Guernesey. On voit bien qu'il n'y a pas de nom qui évoque les sites d'habitat, mais ce sont bien des noms stratégiques autour de l'île. Ce sont des termes, c'est un héritage de marin. Voilà, c'est un héritage de marin. Gerbourg, hein, ça nomme un ancien camp de l'âge du bronze, et il était facile de s'installer là pour aller guetter les marins. Donc Guernesey, alors là c'est grandiose, Guernesey n'est pas au cœur du monde, mais au cœur de la navigation du golfe normand-breton. Hein, je vous ai montré Gerbourg. Gerbourg est là, donc vous imaginez... Hein, les possibilités d'attaque, de surveillance, etc., qu'on pouvait avoir à partir de cette île-là. Alors, la conclusion, hein, l'étude des toponymes des îles anglo-normandes en Normande, ça permet de mettre en valeur qu'à l'époque gallo-romaine, dès l'époque gallo-romaine, et probablement avant, hein, c'est parce que On prend l'époque gallo-romaine parce que c'est la seule fois où on a des traces écrites avec ces noms anciens des îles. Hein, les îles ont constitué des étapes maritimes importantes au sein d'une économie européenne, hein, qui allait de la Grande-Bretagne à la Méditerranée. Le nom des îles d'origine gauloise reste stable et se maintient jusqu'au IXe siècle. Je l'ai dit tout à l'heure, la grande rupture se fait à la fin, vers le 9e, en tout cas 10e siècle, à l'arrivée des Scandinaves. Au cours de la période viking, ils constituent des points stratégiques qui représentent un enjeu politique pour contrôler la navigation dans le golfe normand-breton. Et c'est le contrôle des îles qui a entraîné ce changement de nom. Et c'est des noms qu'on a encore de nos jours, qu'on utilise encore de nos jours. Voilà. Et je vais passer la parole à Eva Guillorel, qui va nous parler du patrimoine oral à travers les chansons.
Le point de départ de ce dont je vais vous parler, c'est un appel, un appel d'un centre de recherche qui a disparu, qui était le centre de recherche d'histoire quantitative, qui n'existe plus, à Caen, qui en 2012 a envoyé un appel aux différents chercheurs de ce centre en se disant « Tiens, ça serait bien qu'on fasse un projet sur le patrimoine des îles anglo-normandes ». Alors il y a plusieurs idées qui ont émergé autour de l'histoire du droit, avec Sophie Poiré qui a fait la première présentation, autour de la toponymie, avec Elisabeth Riedel-Granger, d'autres personnes ont proposé de travailler sur l'histoire de la navigation, et puis moi, m'intéressant plutôt à l'oralité, j'ai dit mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose sur le patrimoine oral, ne sachant pas du tout où j'allais atterrir et ce qu'il existait ou pas de ce patrimoine oral, alors c'est-à-dire des chansons, des musiques, des danses, de ces formes de divertissement qui se sont transmises de génération en génération sur plusieurs siècles. Et donc ça a été le début d'un projet dont on voit les réalisations, les concrétisations émerger maintenant. Et je vais vous présenter en quelques mots les années de recherche, les 6 années de recherche qui ont conduit avec une multiplicité d'acteurs, de chercheurs, d'institutions, d'approches et de pratiques aux résultats qu'on a là. Alors, la première chose, le premier travail qui a été fait, ça a été une recherche documentaire, pour savoir ce que l'on pouvait trouver de traces anciennes autour de ces répertoires de musique et de chansons. Donc, toute une série de recherches dans les archives manuscrites anciennes. Je vous ai mis quelques exemples ici de textes de chansons qui sont conservés dans des dépôts d'archives, dans des bibliothèques. Ici, c'est la Prior Library à Saint-Pierre-Port, à Guernesey. Donc, on a des traces anciennes de ces chansons qui ont été mises par écrit. On en a aussi à la Société Cerquaise, à Cercle, sous la forme de cahiers de chansons. On en a à la Société Jerseyaise, à Jersey, sous la forme de textes qui ont pu être publiés en particulier dans des journaux. Et puis, une fois que cette première recherche documentaire a été faite, on s'est surtout intéressé avec l'équipe qui a travaillé là-dessus et donc qui a été pilotée à la fois par le pôle maritime de la MRSH, pour mon volet, on va dire, et une association qui est l'association Lalour, qui est basée en Normandie et dont je redirai quelques mots tout à l'heure. Donc, on a travaillé sur les archives sonores. Les archives sonores, à savoir les enquêtes ethnographiques qui ont été réalisées au XXe et un tout petit peu au XXIe siècle. Donc des gens qui sont allés sur le terrain enregistrer les savoirs dans la mémoire des gens qui ont pu être transmis dans leur famille de chansons, de musique, de danse. On en a toute une collection, et c'est très intéressant de comparer aussi dans le temps. Il y a une première enquête qui a été faite sur l'île de Cerque par la BBC en 1938, à l'initiative de la dame de Cerque, seigneur de Cerque, Madame Sybille Attaway, qui a appelé un producteur de la BBC pour faire une émission sur son île. Et donc ils sont venus, ils ont fait des enregistrements qui sont à la fois extrêmement précoces, 1938, et de très bonne qualité, puisqu'ils avaient un matériel professionnel, donc quelque chose de très précieux. Et puis ensuite, on a deux grandes enquêtes qui ont été réalisées. La première, c'est toujours par la BBC en Angleterre, par Peter Kennedy. Alors on le voit ici avec un micro en train d'enregistrer quelqu'un. C'est pas quelqu'un des îles anglo-normandes qu'on voit là, mais je voulais vous montrer le portrait de ce grand collecteur qui, pour les émissions de la BBC, a traversé toute l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande à la recherche de ces musiques et traditions chantées portées par les familles, par les individus. Il a fait deux enquêtes en 1957, en 1960, à Jersey, Guernesey, Cerque et Origny. Et puis ensuite, une équipe française a travaillé là-dessus en 1970. C'est Claudie Marcel Dubois qu'on voit ici et Marguerite Pichonnet-Andral qui étaient employées par le Musée national des arts et traditions populaires qui était basé à Paris et maintenant c'est devenu le MUSEM, c'est l'ancêtre du MUSEM à Marseille. Et ce musée avait pour vocation d'aller faire des enquêtes pour aller enregistrer la mémoire des gens un petit peu partout en France. Et donc, ils ont décidé, hein, puisque c'est une zone essentiellement francophone, enfin de culture hein, francophone jusqu'à très récemment dans les îles anglo-normandes, en termes de langue, hein, eh bien, ils ont décidé aussi de faire une enquête à Jersey, Guernesey et Serque. Ensuite, il y a une autre enquête en 1974 qui a été réalisée à Serque également par Sam Richards. Et puis, on a complété entre 2013 et 2017 par d'autres enquêtes de terrain. Alors, sur les répertoires de musique et de danse, il n'y avait plus grand-chose. Hein. C'était des choses vraiment vieilles, mais on avait des souvenirs et surtout des informations sur les chanteurs, sur la pratique, sur les contextes de pratique qu'on avait assez peu hein, dans les enquêtes plus anciennes qui se sont surtout intéressées au répertoire plutôt qu'au contexte. Donc tout ça hein, a permis de rassembler un très important corpus hein, auprès de gens dont alors, la langue maternelle n'est pas l'anglais comme les jeunes maintenant hein, dans les îles, mais ce sont alors, les parlés des îles anglo-normandes, alors parler dialecte, langue, hein, je laisse les spécialistes débattre de cette question, mais ce qu'on appelle aussi le gériais ou jersiais, le jernesiais, le guernesiais, le cerquiais, hein, qui sont des parlés vernaculaires de ces langues qui peuvent être apparentées au français bien plus qu'à l'anglais. Voilà, il faut mentionner aussi que en parallèle à ces pratiques de transmission dans les familles où on chante dans les veillées, on chante au travail, on chante quand on veut finalement. Hein. Il y a eu aussi des formes d'institutionnalisation de cette mémoire des traditions populaires autour de groupes folkloriques qui se sont mis en place. Hein. Alors là, c'est une autre philosophie, on s'habille en costume ancien, on va jouer devant une scène, éventuellement dans des pratiques touristiques. Hein. Ce n'est pas ce pan-là hein, qu'on a étudié, mais ça existe également et c'est complémentaire. Alors qu'est-ce qu'on trouve hein, dans ces enquêtes ethnographiques ? Une très grande diversité. Une très grande diversité à la fois des espaces, hein, donc Jersey, Guernesey, Serque, Aurigny, Macarthe est nettement moins bien que les précédentes. Hein. On a également une multiplicité de genres, hein, de traditions orales, des chansons, des musiques, des danses, des devinettes, des proverbes, des légendes, des histoires, hein, tout ce qui s'apparente à ce savoir ancien hein, qui a pu se transmettre dans les familles. On a également une multiplicité de langues. Hein. Alors j'ai parlé hein, des parlers vernaculaires des îles, hein, Jersey, Guernesey, Serquier, mais on a aussi dans ce répertoire de chansons des choses en anglais et en français. On est vraiment dans un carrefour hein, culturel et on le sent bien dans ce répertoire. Et puis on a également une multiplicité des formes musicales et des formes chantées avec des influences hein, qui viennent de différents endroits. Hein. On a des choses qui sont vraiment caractéristiques des îles, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres régions, mais pour beaucoup, ce sont des éléments que l'on retrouve ailleurs, hein, qui ont circulé en particulier dans l'espace de la francophonie. Alors la francophonie, c'est la Normandie, bien sûr, mais c'est quasiment tout le reste de la France, c'est aussi le Québec, l'Amérique française, les Antilles. On a tout un répertoire qui a circulé très largement au gré des mobilités hein, des hommes depuis plusieurs siècles. Et ça nous permet hein, de comparer un petit peu ce qu'on trouve dans les îles hein, avec ce que l'on trouve ailleurs. Alors, je vous propose d'écouter quelques extraits. La première, c'est un air musical. Hein. On a enregistré du violon, de l'accordéon, surtout de l'accordéon, un petit peu de banjo. Hein. Et là, c'est un air de danse. Hein. Je vais faire passer juste des extraits très courts. Hein. Pas aller plus loin. Hein. Voilà le type de répertoire très influencé du répertoire anglais. Hein, c'est du répertoire de danse, hein, contredanse anglaise. Hein. Ça vient de Jersey, 1960. Et là, vous avez une des photos qui a été prise pendant une des enquêtes. Alors, ce n'est pas les mêmes musiciens. Hein. Ça a été pris à Guernesey, à Saint-Pierre-du-Bois, en 1970. Mais il y a une veillée. Hein, ça a été enregistré dans une veillée chez des gens. Et puis, ils sont mis à danser, à jouer. Voilà. Donc, on a aussi des archives photographiques extrêmement intéressantes de ces enquêtes. Alors, je passe maintenant à la chanson. Pour vous faire écouter tout d'abord un extrait de chanson en guernesiais. Hein, Donc là, vous allez bien entendre hein, cette langue qui n'est pas vraiment ni tout à fait du français. « Voilà, c'est la dame qui est là, hein, donc toujours, c'est enregistré chez elle. Hein, ça, c'est une danse à figure hein, que l'on pouvait trouver dans les îles. Hein. Je continue, je vous disais hein, qu'on a un répertoire dans le parler des îles, on a aussi beaucoup de répertoires en langue française, puisque je vous disais, c'est des chansons qui ont circulé dans toute la francophonie, il y a beaucoup de répertoires en français. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été recueilli dans les îles, c'est bien recueilli dans les îles, mais c'est en français, et c'est, ça vient de l'enquête de 1938 de la BBC. Alors on ne sait pas exactement le nom de tous les chanteurs, on sait que ce musicien était là, Fred Baker, et ça a été enregistré dans les jardins de la Seigneurie, hein, dont vous voyez ici une photo. Il y a un peu de... On sent le bruit de l'enregistrement ancien. Cette chanson-là, on l'a enregistrée au Québec, en Acadie, en Louisiane, un petit peu partout en France. Donc c'est vraiment une chanson qui a beaucoup circulé, mais en même temps, elle a une couleur locale des îles anglo-normandes qui font que la façon dont on la chante là, il n'y a que hein, à Cercle qu'on l'a recueillie de cette manière. Et puis, on a aussi des raretés. Hein. Par exemple, ici, hein, un chanteur qui a beaucoup été enregistré, Jack Lefeuvre de Cercle, de la Genetière à Cercle, avec, donc, lors de l'enquête de 1970. Il chante une chanson qui n'a jamais été répertoriée ailleurs. Pourtant, c'est une chanson qui a circulé dans la tradition orale, mais personne ne l'avait recueillie, que ce soit dans les îles anglo-normandes ou dans un autre endroit. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Et c'est également en français, comme vous allez le constater.
Le 26e d'octobre, des îles j'avons parti, en grande diligence, t'es pour y aller de retour à Saint-Jean. Puis quand nous fûmes au large, large en pleine mer, reçûmes un coup de mer, brise à mas les corps. Les pauvres matelots priaient miséricorde. Grand Dieu qui est.
Donc, c'est le récit hein, d'un naufrage en mer. Hein, chanson extrêmement intéressante. Et puis, je vous disais qu'il y a aussi un répertoire en anglais hein, qui fait partie. Hein. Encore une fois, ça circule. Et bien, ça a circulé depuis l'Angleterre également. Ici, une chanson sur la pêche à la baleine, recueillie auprès de Winter Vibert, qui est de Cercle également.
In 1894. Promoters, here we set sail, when we hoisted our mangled yacht, and for Greenland bore away, brave boys, and for Greenland bore away.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait autour de ce répertoire? On l'a analysé avec des spécialistes de plusieurs disciplines pour montrer un petit peu le contexte, l'intérêt, en quoi ça nous permet d'améliorer notre connaissance du patrimoine oral des îles, bien sûr, mais aussi plus largement, vous l'avez compris, de la francophonie. Et surtout, d'abord, on a voulu rendre ces fonds accessibles. Ça a donné lieu à des réflexions sur la mise en ligne, donc tout un volet numérique. Voilà, mise en ligne des enquêtes ethnographiques, notre projet est arrivé à point nommé, puisqu'une bonne partie de ces collections, les collections anglaises, sont conservées à la British Library. Donc on a travaillé avec eux, hein, les services de la British Library Sound Archive, qui développent hein, tout un projet de mise en ligne des fonds, et donc la collection Peter Kennedy, qui était déjà partiellement en ligne, ils ont fini le travail en lien avec notre projet, pour qu'on puisse écouter hein, l'ensemble de cette collection. Donc ça, c'est pour les fonds anglais. Et pour les fonds français, on travaille avec une équipe qui est basée à Paris, hein, le IAC Laïc qui est rattaché à l'EHESS, qui met en place tout un programme de numérisation et de mise en ligne des enquêtes du Musée national des arts et traditions populaires. Et les deux dames dont je vous parlais tout à l'heure en 1970 faisaient partie de ce musée. Et donc on travaille avec eux. Hein, il y a d'autres enquêtes qui sont mises en ligne, mais nous on va documenter l'enquête des îles anglo-normandes pour que le son soit accessible. Donc rendre accessible ces fonds, hein, c'était le premier point. Et puis on travaille également à présenter hein, une étude raisonnée, puisque finalement il y a très peu de choses qui sont connues hein, sur ce répertoire, sous la forme d'un livre qui va paraître très bientôt, le 15 octobre, vous êtes tous invités, je redirai un mot tout à l'heure. On va lancer cet ouvrage, hein, qui est un ouvrage à peu près de 130 pages, qui a été réalisé avec l'association Lalour, donc, qui s'intéresse au patrimoine oral de Normandie, et donc qui présente, c'est un livre bilingue, français-anglais, qui présente toutes ce répertoire avec un choix de chansons. Il y a un CD qui permet d'écouter en version longue hein, toutes les chansons que je vous ai montrées tout à l'heure et d'autres encore également des devinettes, des histoires, hein, d'autres choses. Et puis on a également souhaité faire une série d'actions culturelles et artistiques autour de ce patrimoine musical des îles anglo-normandes. Il faut savoir aujourd'hui, si vous allez dans les îles, hein, en tant que touriste, vous allez entendre de l'anglais très très largement. Hein. Peut-être dans le secteur touristique, vous allez entendre des gens hein, qui parlent français, parce qu'il y a quand même pas mal de Français qui viennent visiter. Des gens dont la langue maternelle est le cerquier, le guernesier, le jersey. Il y en a encore, hein, mais il y en a de moins en moins. Et il y a une grosse rupture au niveau de la transmission linguistique, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais ça s'explique, qui fait qu'aujourd'hui, ce patrimoine d'inspiration largement française, il est quasiment complètement oublié. Hein. Donc, c'était aussi l'idée qu'il y ait voilà, une réactivation de ce répertoire. Et on a soumis ces enregistrements ethnographiques à un groupe de musiciens qui a été créé pour le projet, hein, avec un musicien de Guernesey, un musicien basé en Angleterre, mais qui a beaucoup travaillé sur les fonds des îles anglo-normandes, quelqu'un de Normandie et quelqu'un de Bretagne. Donc on a tout l'arc. Et voilà, ils ont monté une création musicale dont on va faire, dont on va livrer les résultats pour la première fois au mois d'octobre également. Et donc ça sera un concert qui sera à la MRSH. Et je vous invite, hein, au nom d'Elisabeth Riedel-Granger, qui co-organise aussi cette journée, à venir écouter plus largement que cette heure une journée complète hein, qui va se tenir autour du patrimoine oral des îles anglo-normandes. Ça s'intitule « Patrimoine oral et maritimité, les îles anglo-normandes, un carrefour de culture ». C'est une journée d'études donc, qui a lieu ici à la MRSH, hein, le lundi 15 octobre. Et vous avez donc des gens de très nombreuses disciplines hein, qui vont venir présenter leurs recherches et leurs voilà, leurs approches en lien avec le patrimoine oral. Et puis, à 17h, il y aura à la fois le lancement du livre et une dégustation de produits normands et anglo-normands, en particulier autour d'une pratique très spécifique qui est la fabrication du sirop en Normandie. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est ce qu'on appelle la confiture des pauvres. Hein. On fait tourner des pommes pendant 24 heures dans un chaudron et on chante et on fait de la musique pour s'occuper. On fait exactement la même chose sur l'île de Jersey, ça s'appelle le Nierbeur. Et il va y avoir donc fabrication hein, la veille hein, à vire de ce sirop normand. Et il y aura une délégation de Jersey qui va nous faire goûter en comparaison le Nierbeur. Donc sur la circulation de ces pratiques et de cette transmission aussi d'une mémoire des gestes hein, autour de ces traditions populaires. Et à 18h30, vous avez le concert, hein, la création de l'IU que nous allons proposer.